France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les midis de culture, des midis cinématographiques aujourd'hui en présence du réalisateur norvégien Joachim Trier. Il s'est imposé avec Oslo 31 août, sorti en 2012, présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, et Julie en 12 chapitres, sorti en 2021, également présenté à Cannes, qui a valu à son actrice principale, Renate Reinsve, le prix d'interprétation féminine. Le voici de retour avec Valeurs sentimentales, grand prix du jury à Cannes cette année, en salle ce mercredi 20 août, merveilleux film mettant en scène deux sœurs, Agnès et Nora, voyant à l'occasion de la mort de leur mère revenir leur père Gustav Borg, incarné par Stellan Skarsgård, qui les a longtemps négligés. Ce réalisateur de renom, vieillissant, veut faire un dernier coup d'éclat. Il propose à Nora, comédienne, de jouer le rôle principal d'un long métrage racontant le suicide de sa mère, la grand-mère de Nora donc, quand il était encore enfant. Mais Nora refuse et Gustav propose le rôle à une star hollywoodienne, Rachel Kemp, incarnée par Elle Fanning. C'est un film hypersensible, mélancolique, très beau, qui va chercher loin dans les traumatismes générationnels, interroge le langage du cinéma et perce le mystère des liens qui tiennent les familles entre elles ou au contraire, qui les déchirent. Bonjour Joachim Trier et bonjour Marguerite Capelle qui va assurer la traduction de cet échange.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre nouveau film « Valeurs sentimentales » et évoquer en seconde partie d'émission deux autres de vos longs métrages, « Oslo 31 août » et « Julie en 12 chapitres » qui ressortent également en salle en ce moment. J'ai remarqué que souvent vos films, Joachim Trier, ont un lien très fort avec leur décor, avec les lieux, avec des maisons de famille parfois. C'est le cas dans « Valeurs sentimentales » qui se passe à Oslo, comme la plupart de vos œuvres, et se déroule en grande partie dans la maison de famille de Gustav Borg, la maison dans laquelle sa propre mère s'est donc ôté la vie. Comment avez-vous trouvé cette maison familiale qui sert de décor à Valeurs sentimentales, que j'ai trouvé très belle et assez impressionnante, Joachim Trier?
Oh, thank you.
Merci.
I was in the process of, or we were as a family.
Je commençais, même nous étions en fait en train de lancer le processus pour vendre une maison de famille qu'on ne pouvait pas garder au moment de l'écriture du film. Alors je me suis dit que ce contexte-là, une maison qui est dans la famille depuis un siècle, est un point de départ intéressant pour avoir un point de vue extérieur sur la brièveté de la vie humaine, sur la façon dont le temps passe à toute vitesse. Et donc il a fallu qu'on trouve aussi la maison de notre histoire, celle qu'on écrivait. Et je crois que j'ai dû en visiter 200, et puis elle était en fait juste à côté de chez moi.
Et vous étiez passé devant cette maison des tas de fois sans forcément la remarquer, en fait, si je comprends bien.
Isn't that embarrassing? Yes.
C'est gênant, hein?
This is strange. Like,
c'est
this
vraiment bizarre.
People think that when you make a film,
les gens pensent que quand on fait un film, tout est prévu, programmé, mais en réalité, c'est souvent une découverte après l'autre. Et avant de le savoir, on se retrouve avec un film sans même s'en rendre compte. Et puis, cette maison, évidemment, je n'étais pas rentrée à l'intérieur, je ne connaissais pas les spécificités de son architecture. Et c'est une histoire qui parle de la répétition de certains moments dans la maison, donc il fallait une disposition des pièces pour ça. Ce que j'ai dit à mon équipe quand on tournait, je leur ai proposé de prendre une minute pour imaginer leur maison d'enfance. Est-ce que c'est un appartement d'ailleurs ou une maison, un endroit, on entre, on passe la porte d'entrée et on sait qu'on va pouvoir effeuiller des couches d'histoire, d'expériences, de vécu. Il a fait froid l'hiver, il a fait chaud l'été. Et la mémoire est liée au lieu, à l'espace. Et donc je me suis dit, tiens, on va commencer le film sur un segment un peu amusant, un peu ludique. Qu'est-ce qui se passerait si la maison, en tant que narratrice, pouvait regarder les personnages qui sont à l'intérieur? Et c'est ça la séquence d'ouverture.
On va reparler de cette question des strates de la mémoire et de la construction des films, mais pour commencer, on écoute un extrait de « Valeurs sentimentales ».
Moi aussi, je croyais qu'il venait s'occuper de la vente.
Ah. Non, mais c'est un projet.
Mais il a un projet en cours.
Qu'est-ce que tu as?
Pardon?
C'est une bonne chose, en fait, mais il va faire un film.
C'est plutôt positif. Il va refaire un film.
Quel projet?
Quel film?
Il a parlé avec toi.
Celui qu'il t'a proposé.
Mon film? Tu l'as écrit pour moi?
Mon film? Le rôle qu'il a écrit pour moi?
Et que le spiller?
Oui, le rôle que tu as refusé.
Mais il a payé pour ça? Oui, il a payé pour ça.
Il a les financements?
J'imagine.
Je crois
qu'il veut t'en parler. Il a demandé si tu serais là.
Ok. Alors?
Ah, c'est lui?
Oui.
Dans l'extrait, on vient d'entendre les deux sœurs, Nora et Agnès, respectivement jouées par Renate Reinsve et Inga Ibsdotter, Lileas. Et dans la maison de famille de ces sœurs dont nous venons de parler, justement, Joachim Trier, on est vraiment dans un décor de théâtre, vous l'avez dit. Et vous avez déclaré dans une interview au magazine Transfuge en 2021 que le cinéma était pour vous une forme d'artisanat. Comment est-ce que vous travaillez justement l'histoire et le décor pour en faire un film? Est-ce que vous vous laissez guider par votre instinct? Ou est-ce que vous planifiez, vous orchestrez, vous contrôlez rigoureusement tout le processus créatif? De l'écriture du scénario au montage, en passant par le décor, la direction d'acteur, etc., etc.
Wow, thank you. That's a very good question.
Merci, c'est une très bonne question et elle est très pertinente. Et elle est aussi très complexe.
Is the thing.
Parce que c'est ça le truc.
Control and chaos.
Le contrôle et en même temps le chaos. C'est ça en fait qui fait de l'art. Je prévois énormément, je planifie, je me rends sur les lieux de tournage avec mon équipe, on regarde toutes les prises qu'on veut faire, je répète avec les acteurs, les actrices, on évoque absolument tout, on passe tout en revue, mais quand on est en train de tourner sur le plateau, j'essaie d'être très libre et très intuitif et de changer le plan à la dernière minute, de suivre les actrices. Je filme en 35 mm, je suis assis à côté de la caméra, je ne suis pas derrière. J'essaie de ressentir ce que les actrices font parce que c'est ça que la caméra enregistre pour de vrai. On peut avoir une idée de ce qu'on veut faire, mais là, ce qui compte, c'est ce qui se passe réellement sur le plateau. Et il faut être là et le ressentir avec eux. Et peut-être qu'à ce moment-là, de nouvelles idées peuvent surgir. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose de plus intéressant, de mieux. Il y a plusieurs scènes dans ce film qui ont été écrites d'une certaine façon, mais qui ont clairement changé et sont devenues bien meilleures parce qu'on est ouvert au potentiel du moment. Le cinéma, c'est un drôle de mélange entre être ici et maintenant et une suite d'événements qui peuvent être très chaotiques, mais qui doit s'insérer dans une grosse machine qu'il faut quand même contrôler. Et c'est ça qui excite les gens, je pense, qui travaillent dans le cinéma. C'est ça qui est enthousiasmant. C'est cet équilibre entre le contrôle et le chaos. Il faut trouver sa propre façon de faire.
Vous m'avez montré votre cœur et votre ventre avec votre main en parlant. Il y a quelque chose qui se joue aussi à l'intérieur. On sent peut-être, quand on est réalisateur, ce qu'on doit faire, ça nous guide aussi à côté de ce cadre qui, pour vous, est aussi important.
Absolument.
Ma trajectoire en tant que réalisateur, ça a été que quand j'étais très jeune, j'avais énormément d'idées formelles. Je suis très curieux de l'esthétique, des possibilités techniques, de ce qu'offre le langage. Mais en tant qu'être humain, on apprend que ce sont les émotions qui sont les outils les plus importants. Et quand je vais au cinéma, j'y vais pour ressentir les choses. C'est ça la première raison d'être là, dans une grande salle avec plein de gens que je ne connais pas, de ressentir des émotions humaines. Et si je ne suis pas présent là-dedans, avec les acteurs, peut-être que je vais empêcher certaines émotions d'advenir et je ne vais pas pouvoir les enregistrer, les filmer. Donc j'essaie toujours de trouver ce lien émotionnel avec ce que je suis en train de filmer. C'est épuisant. Mais je regarde les acteurs, les actrices et je me dis, c'est ça qu'ils font. En fait, ils doivent faire ça tous les jours, ressentir, rire, pleurer. Et je crois que pour moi, c'est un tout petit peu plus facile, la tâche est un tout petit peu plus facile, je dois juste les aider à arriver à cet endroit.
On va inviter une actrice que vous aimez beaucoup, Isabelle Huppert, dans cette discussion. Nous allons écouter l'extrait d'une interview qu'elle a donnée à Eva Bester dans la 20e heure sur France Inter le 22 janvier dernier, justement à propos du langage cinématographique.
Je pense que le cinéma est un langage et qu'il faut savoir l'entendre, l'écouter, et à bien l'écouter, on finit par le comprendre. Et puis, je pense pas qu'il faille tout comprendre. Je pense que c'est bien de pas comprendre ce qu'on fait. C'est même très très bien. De même que j'ai rien l'impression d'apprendre, je n'ai pas besoin de comprendre. C'est pour moi être actrice ou faire ce que je fais, qui sont plutôt des expériences. Enfin, c'est peut-être comme ça que je l'envisage à chaque fois que je le fais. Si je fais un film ou si je joue au théâtre, je le prends un peu comme une expérience. Ça me donne beaucoup de liberté. Plutôt de se dire que qu'on fait un film avec tout ce que ça peut supposer de, voilà, on fait un produit fini, on raconte une histoire, il faut obtenir tel résultat. Ça libère de tout ça, de se dire que on fait une expérience. Et en plus, c'est plus juste, je crois. Parce qu'on fait l'expérience de rencontrer quelqu'un. En l'occurrence, ce quelqu'un, c'est quand même celui qui vous filme. Et on fait, voilà, l'expérience de faire partie de son monde, de confronter des imaginaires. Il faut que ça reste un peu expérimental.
Voilà, Isabelle Huppert, que vous avez dirigé Joachim Trier dans le très beau film Back Home en 2015. Vous êtes d'accord avec elle? Il faut savoir lâcher prise, accepter de ne pas tout comprendre.
Yeah, I'm actually very moved by hearing my friend's voice say such smart things.
Je suis très émue d'entendre mon ami dire quelque chose d'aussi intelligent. J'ai énormément appris auprès d'Isabelle Huppert.
Looking at her in the films she's made,
en
but
la
also
regardant
with her,
dans les films qu'elle a fait, mais aussi en travaillant avec elle, j'ai eu cette chance de comprendre que c'est vraiment l'exemple parfait, justement, de cet abandon, de ce lâcher prise. On entend dans sa voix
incredibly intelligent,
à quel point elle est incroyablement intelligente, concise, elle sait beaucoup de choses, mais la dynamique de liberté qu'elle prend devant une caméra est très impressionnante, et en même temps, il y a toujours une forme de distance et d'absence qu'elle fait apparaître pour que le spectateur ne sache pas tout, pour que le mystère humain perdure. Il y a une place laissée au public, au spectateur, et elle le sait, elle le fait volontairement, elle accepte justement ce manque de clarté sur ce qu'elle fait, mais elle le fait dans le cadre d'une intention et de quelque chose qui va quelque part, et c'est ça. Pour moi, vraiment, la langue des plus grandes œuvres d'art, ce qu'elle fait, c'est extrêmement paradoxal. On voit un comportement, on peut l'interpréter, mais on ne sait pas tout à fait ce qui se passe. Et je me souviens d'avoir discuté avec Isabelle, et sur des sujets, des dialogues qu'on a ouverts, des conversations que je poursuis aujourd'hui avec des jeunes actrices avec lesquelles je travaille, et que j'essaie aussi de former. Désolée si j'ai l'air prétentieux, en tout cas, je ne vais pas le dire aussi bien qu'elle, mais ce qu'on se dit, c'est qu'on est des mystères pour nous-mêmes. On est un mystère à nous-mêmes. Donc, pour exprimer une forme de vérité humaine, il faut que ce mystère perdure. Il faut l'entretenir. Parce qu'en tant qu'actrice, on peut rationaliser un personnage, mais dans ce cas-là, il meurt. Il n'a plus d'étincelle, il n'a plus de vie. C'est vraiment l'inconnu, en fait, qui doit être en jeu. Et Isabelle est vraiment extrêmement douée pour ça.
Vous parlez de ce que vous entendez dans sa voix, et justement, c'est intéressant aussi dans votre cinéma, la question du langage et de la langue des acteurs et des actrices. Isabelle Huppert, dans Back Home, elle parlait anglais, mais elle est française. C'était dans un film qui se passe aux États-Unis avec des acteurs américains. Dans Valeurs sentimentales, vous avez une actrice américaine qui arrive en Norvège pour jouer en anglais dans un film norvégien et qui se demande si elle doit parler anglais avec un accent américain ou avec un accent norvégien. Qu'est-ce qui se joue là, à la fois pour les acteurs et les actrice et pour le réalisateur Joachim Trier.
Everything is at stake every time
I make a film. Tout se joue à chaque fois qu'on fait un film, tout est en jeu. Je ne travaille jamais dans la sécurité. Ce serait impossible.
I think that the real language of cinema is the human truth.
Je pense que le véritable langage de cinéma, c'est la vérité humaine du jeu d'acteur.
The idea of the image, you know, like how the image can express mood.
Le concept de l'image pour exprimer des émotions, des atmosphères. L'idée dans cette histoire-là, c'est qu'on joue sur cette famille qui est au cœur de l'intrigue. Et qui ne sait pas se parler. Les membres de cette famille ne savent pas communiquer dans la langue de tous les jours, dans la langue sociale, et ils ont beaucoup de griefs les uns envers les autres. Mais le film les suit parce que la fille aînée étant actrice et le père réalisateur, ce que le film montre, c'est qu'il y a peut-être un autre langage possible à travers l'art, de façon indirecte, peut-être plus intuitive. Je pense que cette inspiration pour parler de choses personnelles me vient aussi de la naissance de mes deux jeunes enfants. Je vois leur façon de développer un langage avant même d'avoir accès à la rationalité. Ils jouent, ils inventent, ils disent des mensonges, ils chantent, ils dansent, et ils ont une langue à eux. C'est cette distinction magnifique en français qu'on a entre la langue et la parole. La langue existe bien avant la parole. Elle est déjà en jeu.
Et
c'est quelque chose qui me fascine racine. C'est presque comme si le père de la famille, Gustav Borg, qui est joué par Stellan Skarsgård, était cet homme blessé, une forme de survivance de son enfance blessée. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer à ses filles. Et donc c'est pour ça qu'il y a différents modes de communication qui se déploient. En tant que cinéaste, il fallait que je sois sincère et que je joue avec le cinéma dans un film sur le cinéma et que je vois si j'arrive à évoquer ça, pas uniquement pour les artistes, pour les gens qui mènent une vie créative, mais en m'adressant à tout le monde pour essayer de peut-être donner une idée de ces découvertes qu'on fait, nous, les artistes, quand on ouvre ces histoires familiales.
Donc, combiner les langages dans l'espérance de trouver peut-être un langage universel ou un langage intime qui viendrait de l'intérieur et qui réconcilierait un peu les êtres d'une famille éclatée.
Yeah, I think you're right. It's a story of reconciliation.
Oui, je pense que vous avez raison. C'est une histoire de réconciliation. C'est aussi une histoire d'impossibilité de trouver certaines réconciliations. Peut-être qu'on n'obtiendra pas ce à quoi on s'attend et le temps passe vite. Il nous est compté, mais peut-être qu'on arrivera à quelque chose d'autre d'inattendu et avec lesquels on pourra vivre dans cette famille, par exemple. Je ne suis pas sûre de parler de langue universelle, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est la communication entre les personnes. Je viens d'une région du monde où Bergman faisait du cinéma. Et la grande leçon que j'ai retenue d'Ingmar Bergman, c'est qu'on peut être très très près les uns des autres et en même temps très très loin. Il avait sans doute d'ailleurs une vision plus sombre de la vie que moi. J'essaie, je crois, d'en avoir une approche pleine d'espoir et de penser que peut-être ils vont réussir à se voir l'un et l'autre.
Je propose que nous écoutions quelque chose d'assez doux. C'est l'extrait d'une interview de Jean-Louis Trintignant donnée en 1971, dans lequel il évoque justement son rapport à la paternité.
Vous pensez que votre foyer est réussi ?
Oui. Oui, oui. J'attache beaucoup d'importance à ça. Oui.
Et quand vous tournez à l'étranger ?
J'emmène.
Vous laissez votre femme ?
Non, j'emmène.
Et les enfants ? Vous savez ?
Non, j'emmène aussi les enfants.
Et l'école ?
Eh bien, je me suis organisé pour qu'elle suive des cours par correspondance.
Et à Paris, elle suit l'école ?
Elle suit des cours par correspondance aussi.
C'est-à-dire que, délibérément, vous avez soustrait votre enfant à l'école uniquement pour les garder avec vous et avoir la possibilité de l'emmener ?
Oui. C'est très important. C'est très important pour moi. C'est très important pour mon enfant aussi. C'est très important pour ma femme. Je pense que la chose... importante pour un acteur, c'est sa nourriture intérieure. Et c'est pour ça que ma famille, ça fait partie de ma nourriture intérieure et j'en ai besoin, je la transporte avec moi.
Voilà, Jean-Louis Trintignant, qui n'est pas un père absent comme Gustav Borg, le héros de votre film, Joachim Trier, mais qui est un père qui se nourrit de la présence de ses enfants pour être un meilleur acteur. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez cet extrait sonore ? Joachim Trier.
I'm very moved by it.
Je suis très ému.
I made the same choice.
J'ai fait le même choix.
I remember when I was young.
Je me souviens que plus jeune,
Henry James,
j'ai lu Henry James, cet auteur américain. C'était une nouvelle qui s'appelle en anglais Lessons of the Masters, une leçon de nos maîtres, je crois. C'est une histoire magnifique sur la dichotomie justement entre le choix de la vie de famille et l'autonomie de l'artiste. Elle montre ce paradoxe et ces difficultés particulières et je crois que c'est quelque chose qui m'est resté pendant des années, l'idée qu'il fallait que je choisisse un des deux camps. Et je pense que ce n'est pas vrai du tout en réalité. Je crois qu'il est possible et même nécessaire pour le type d'histoire que je veux raconter d'être en interaction avec la vie.
Aging, children, family.
Vieillir, avoir des enfants, avoir une famille. Je crois que c'est là que je puise l'énergie de mes histoires. Mais ça, c'est mon cinéma à moi. Je m'intéresse aux relations humaines. Et je pense que c'est possible. Et j'apprécie aussi justement de parler à des jeunes qui rentrent dans la carrière artistique et j'espère qu'ils auront cette ambition. Le cinéma, c'est une dynamique collective, c'est aussi une famille. Et j'espère qu'ils arriveront à s'entraider pour créer et en même temps avoir une famille. Ce n'est pas impossible. Mais bon, il ne faut pas évidemment se cacher la réalité. Moi, je viens d'une famille de 3 générations de cinéastes et j'ai vécu l'absence d'un parent pendant certaines parties de ma vie, la présence des autres aussi, et c'est toujours une lutte, un combat. Mais en tout cas, j'ai été très émue par Trintignant. Je l'ai rencontré une fois. Isabelle Huppert m'a emmené dîner une fois avec lui, et je suis très heureux d'avoir rencontré une telle légende, un véritable maître. Donc c'était merveilleux d'entendre à nouveau sa voix.
Il m'a semblé voir, alors c'est passé un peu vite, mais au générique de fin de Valeurs Sentimentales, il m'a semblé voir que le rôle de Nora Bébé était tenu par une certaine Ibi Trier. Est-ce que c'est un hasard ou une coïncidence, Joachim Trier?
There are some small cameos of some family members.
Petits caméos de quelques membres de la famille, effectivement, dans le film.
Justement, dans votre film, Gustave Borg, donc le réalisateur, fait tourner une de ses filles, Agnès, dans un de ses longs métrages quand elle est enfant, et on voit un extrait de ce film à l'intérieur de votre film. Pourtant, c'est sa sœur Nora qui plus tard va décider de devenir comédienne. Pourquoi est-ce que ces deux femmes ont pris des trajectoires si différentes alors que finalement les rôles avaient semblé être distribués autrement au départ?
I think that was the beginning point of making
this film. C'était d'ailleurs le point de départ du film. C'était de regarder ces deux sœurs qui ont 3 ans d'écart, qui ont l'impression, en tout cas un regard sur leur famille qui est extrêmement différent. D'où le titre, Valeurs Sentimentales. Quelle valeur est-ce que vous, en tant que personne, vous accordez à tel objet, à tel lieu, à la famille en général ou à une relation? Je crois que c'est un mystère qui se pose dans toutes les familles et on doit toujours se demander pourquoi notre individualité sera toujours en contraste avec notre expérience collective. C'est pas obligé d'être aussi douloureux que dans l'histoire de cette famille-là, mais je crois que c'est un mystère qu'on peut reconnaître en nous partout. Et puis il y a aussi cette idée de l'ordre des sœurs, l'interaction entre les sœurs, les personnalités différentes. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Et quelle est l'influence justement de cette grand-mère qui s'est suicidée avant leur naissance? Mais quelle est son influence, son impact sur leur vie, Joachim Trier?
Yeah, that's a good question.
C'est une bonne question.
Look around me, people I know,
quand je regarde autour de moi, les gens que je connais dans ma vie, je pense que pour bien comprendre ses relations avec ses parents, on doit comprendre leur propre rapport avec les leurs. C'est intéressant, dans ma famille, mon grand-père, Eric Lurkin, était donc cinéaste, mais c'était aussi un résistant dans la Seconde Guerre mondiale, quand la Norvège, comme la France, a été occupée par les nazis.
And he was caught and survived war
il
camp,
s'est fait prendre, il a survécu à un camp, mais il a été traumatisé toute sa vie. Et je pense que son vécu post-traumatique a eu un impact très fort sur ma famille. Il est mort il y a des années, mais maintenant que je suis plus vieux, je vois les choses. Enfant, on regarde son grand-père et on voit un homme drôle et sympathique. Il jouait du jazz, il faisait des films et je pensais que des océans temporels nous séparaient. Mais maintenant que j'ai vieilli, je me rends compte à quel point il s'était écoulé si peu de temps depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis née dans les années 70. C'est vraiment ce paradoxe du temps. C'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Et même en tant que troisième génération, la guerre continue à m'affecter énormément. J'y pense et je regarde mes enfants. Et je me demande si maintenant que tous les témoins de cette époque sont en train de mourir, ce paradoxe de la mémoire va se jouer autrement. J'ai pas envie de transférer mon trauma sur eux, mais en même temps, il faut que je leur raconte cette histoire, je le leur dois. Et c'est ça le vécu de ma génération maintenant, en tout cas dans mon pays.
Est-ce que vous pensez qu'un film, justement, peut aider à conjurer à la fois un trauma collectif, historique, comme la Seconde Guerre mondiale, qui est présente dans votre film et l'occupation nazie, et en même temps, ces fameux traumatismes transgénérationnels? Est-ce qu'on peut utiliser le cinéma pour à la fois faire vivre une mémoire et en même temps couper un lien qui pourrait venir pourrir les générations suivantes?
C'est une très grande question. Je crois que ce que le cinéma peut faire, c'est créer un espace de contemplation, proposer une expérience. C'est ce dont Isabelle parlait. Dans son travail d'actrice, en tant que spectateur, c'est aussi une expérience. Le cinéma, c'est un endroit où on peut réfléchir, on peut partager. Et je crois, là, il le faut. Nous vivons une époque difficile, il faut croire qu'il sera possible, qu'il existe une possibilité de voir la complexité de l'expérience humaine, de communiquer, de voir l'autre et de l'écouter, de l'entendre, de regarder, d'être curieux et d'essayer de ressentir ce que ressent l'autre. Mais oui, c'est quelque chose d'intéressant.
is the strange memory machine.
Le cinéma est une machine à mémoire très étrange de toutes les formes artistiques. C'est encore une fois ce paradoxe que je décrivais. On peut filmer un témoin qui raconte une histoire.
At the same time,
regardez The Great Show, par exemple. Mais en même temps, le cinéma vous montrera aussi à quel point c'était il y a longtemps. Parce que le monde change.
Il y a aussi, donc bien sûr, ces tragédies, bien sûr, cette mélancolie, cette tristesse, mais de l'humour et de la joie dans ce film, notamment l'humour noir de Gustave, qui m'a fait rire, notamment quand il fait croire à l'actrice Rachel Kemp, donc Elle Fanning, que le tabouret sur lequel elle est assise dans cette fameuse maison est celui que sa mère a utilisé pour se suicider. Puis on apprendra plus tard que c'est un tabouret Ikea. D'où vient finalement cette résistance à la tragédie par un humour, certes grinçant, mais quand même très drôle.
I like people that can laugh at things.
J'aime bien les gens qui sont capables de rire de tout. Tout peut devenir drôle si on fait ça bien. La vie est une tragicomédie. C'est ce qu'on apprend dans les bons films. C'est ce qu'on apprend en regardant Woody Allen.
This is reading Philip Roth.
Ou en lisant Philip Roth.
Yeah, we got to survive, we got to laugh.
Cette idée qu'il faut bien survivre et rire.
People are fools, you know.
And I think in a way sont naïfs.
The difficult Gustav Borg in the film.
Quelque part, Gustav Borg, qui est vraiment un père difficile, pénible. Pour le défendre, il est quand même assez drôle. Et c'est quelque chose qui me plaît chez lui.
Et il est question aussi de théâtre dans votre film, Joachim Trier, puisque Nora, la comédienne incarnée par Renate Reinsweh, joue notamment sur scène le rôle de Médée. Mais en voyant vos films, moi je pense aussi souvent à de grands dramaturges scandinaves, par exemple à Ibsen et sa maison de poupées. Est-ce qu'il fait aussi partie de votre panthéon, Joachim Trier ?
Not really. It's funny.
Pas
vraiment. I'm not
c'est
a theater
drôle
person.
Parce qu'en fait, moi, je suis pas très très branchée théâtre. J'aime bien y aller.
It's not my art form.
Mais ce
to
n'est
get
pas ma forme artistique préférée. Moi, j'ai besoin de tenir une caméra. J'ai besoin d'imaginer une image. Ce serait presque un cauchemar pour moi de faire cette maison de poupée de Ibsen parce que ce sont des gens qui parlent du passé et moi, dans le film, je veux vivre le passé. Je veux y aller avec ma caméra. Je veux entrer dans cet espace. Donc je respecte beaucoup le théâtre en n'en faisant pas.
C'est pour cette raison que vous incluez aussi dans votre film des extraits de pièces où on voit Nora sur scène, mais aussi des extraits de films tournés par ce fameux réalisateur, des films qui eux-mêmes se passent dans le passé. On a des films sous occupation nazie, on a l'histoire de cette grand-mère qu'on voit ensuite progresser dans le temps. C'est cette liberté-là que vous donne la caméra, justement, celle d'aller partout, de transcender les époques, de transcender les lieux, d'aller dans d'autres pièces, là où l'action ne se passe pas, pour filmer des pièces où les personnages ne sont pas en train d'évoluer, de montrer autre chose. Vraiment, il y a ça chez vous, cette volonté de casser les murs et les époques. Joachim Trier.
No, thank you. I take that
oui,
almost merci. As a compliment. If
je
you
prends
see
ça comme un
film,
compliment, je crois. Si c'est ce que vous voyez dans vos films, en tout cas, je suis ravie.
Yes, I am interested in breaking the form.
Oui,
and I try
ça m'intéresse effectivement de rompre la forme, de la faire voler en éclats. J'essaie de le faire de façon subtile et pas avec orgueil pour montrer que je fais du cinéma d'auteur artistique. J'essaie de prendre cette liberté, d'avoir ces superpositions de couches temporelles, de montrer que ça compte, ces différents espaces. Le flux de conscience, c'est pas tout à fait le bon terme, parce que dans ce film, il y a plusieurs consciences simultanément. C'est peut-être plus une structure polyphonique, symphonique même, où on passe d'un point de vue à l'autre.
Merci beaucoup Joachim Trier pour cette première partie d'entretien et je propose que nous prolongions notre échange après le journal pour évoquer deux de vos précédents longs métrages, Oslo 31 août et Julie en 12 chapitres qui ressortent cet été en salle. Et tout de suite, les infos.